Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous et merci. Merci aux infirmières, médecins, paramédicaux qui prennent soin et accompagnent les patients pendant cette crise sanitaire. Merci à celles et ceux qui travaillent auprès des personnes âgées. Merci aux employés du commerce, personnel de nettoyage et des transports. Merci à toutes celles et ceux qui travaillent pour la communauté. Alors qu'au fil des jours, pays après pays, continent après continent, les autorités sanitaires égrènent les chiffres. Contamination et décès, hospitalisation et prise en charge en service de réanimation, l'AREA, ces services de soins ultra spécialisés indispensables en cas d'insuffisance, dans le cas précis du Covid-19, d'insuffisance pulmonaire provoquée par une inflammation sévère. On le dit, on le répète et nous l'entendrons en début d'émission avec le récit d'une patiente en voie de guérison. La grande majorité des personnes infectées par le coronavirus ne développent pas de forme grave de la maladie. Mais compte tenu de la contagiosité et de la sévérité des atteintes pulmonaires, c'est une déferlante qui s'est abattue en quelques semaines sur les hôpitaux de plusieurs régions de France, après avoir frappé la Chine, l'Italie, l'Espagne et à présent la Grande-Bretagne et les États-Unis. Service de réanimation débordé dans le Grand Est, en Île-de-France, si bien qu'il a fallu déplacer des malades vers des régions moins en tension, beaucoup de cas très lourds et une prise en charge longue qui mobilise beaucoup de soignants, médecins, infirmières qui ne comptent plus leurs heures. Et aujourd'hui encore, dans Priorité Santé, nous leur donnons la parole. Priorité santé en confinement, la moitié de l'équipe à la maison, studio de chez moi, Steven Elsley, Raphaël Lazizi dans le studio RFI. Nous sommes connectés via WhatsApp, on leur fait coucou de la main. Et aujourd'hui, nous parlons donc des complications pulmonaires associées au nouveau coronavirus. On va en parler avec vous, professeur Chantal Raérisson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pneumologue dans le service des maladies respiratoires pôle cardio-thoracique au CHU de Bordeaux et vous présidez, madame, la Société de pneumologie de langue française. Service en première ligne, la réanimation. Nous retrouverons tout à l'heure le docteur Martin Dresse, médecin réanimateur au sein du service de pneumologie médecine intensive réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et puis nous retrouverons également Nicolas Ostelet, infirmier en médecine intensive réanimation au sein de ce même hôpital de la Pitié à Paris. Épidémie avec tous les changements d'habitude que cela implique à tous les niveaux, bien sûr en termes de sortie, de vie quotidienne. Et on va retrouver en fin d'émission les conseils de Stéphane Besançon, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Bien manger, bien faire ses courses, en pensant à se protéger du concret, du pratique, essentiel pour rester en bonne santé.
Priorité santé sur RFI.
Alors on le sait, cette crise sanitaire bouleverse nos habitudes. État d'urgence dans certains pays, confinement, couvre-feu en fonction des différentes régions du monde. Les autorités locales ont choisi différentes stratégies pour essayer de limiter la contagion à Paris, à New York, à Kigali. Circulation réduite au minimum dans de nombreux pays, Mali, Sénégal, écoles, commerces non essentiels qui restent fermés. Et puis à la télé, à la radio, des médecins et encore des médecins, épidémiologistes, virologues, infectiologues. Et finalement, professeur Chantal Raérisson, assez peu de pneumologues. Et pourtant, ce Covid-19, eh bien, c'est tout particulièrement pour ses organes respiratoires que ce coronavirus peut être particulièrement dangereux.
Oui, effectivement, le coronavirus atteint la cible principale, l'appareil respiratoire. Mais on sait aujourd'hui pas que, il peut également avoir une atteinte au niveau de la sphère ORL et au niveau digestif. Mais le tropisme principal, c'est effectivement l'atteinte des poumons. Ça va se manifester par de l'essoufflement, de la toux, de la fièvre. Et il est vrai que quand l'épidémie a démarré, elle a démarré aussi en pleine période d'épidémie grippale. Voilà. Mm-hmm. Donc les pneumologues sont effectivement en première ligne devant cette affection.
Professeur Harrison, à partir de quel moment ces difficultés respiratoires deviennent-elles préoccupantes? Avec quels signes?
Alors, ces difficultés respiratoires, elles deviennent préoccupantes, on va dire, de deux façons. Soit par les symptômes où les personnes vont sentir qu'elles ont un sentiment d'oppression dans la poitrine. Elles n'arrivent pas à bien respirer. Elles ont une sensation de poids dans la poitrine. Soit elles vont être beaucoup plus fatiguées avec une fatigue très importante. Hein, et on sait aujourd'hui que la fatigue est un symptôme à rechercher. Mais chez des personnes qui vont avoir d'autres maladies, ce qu'on appelle, nous, dans un langage un peu, on va dire, des comorbidités. Hein, voilà. Mmh. Donc quand on a d'autres maladies, qu'on est un peu fragile, et on est très fatigué avec de la fièvre, ça peut aussi marquer la gravité de l'affection.
Alors, professeur Chantal Ryerson, toutes les manifestations de toux, hein, il faut vraiment le souligner, ne signifient pas pour autant qu'il y a une forme sévère. On a parlé de ces symptômes, vous les avez évoqués, fièvre et surtout fatigue, avec beaucoup, beaucoup de cas bénins, parce que des auditeurs nous demandent si l'on guérit du coronavirus. Eh bien, dans l'extrême majorité des cas, il faut le dire, la réponse est évidemment oui. Et justement, on va donner la parole à une jeune femme convalescente. Oui, dans Priorité Santé, on avait envie d'entendre la voix de quelqu'un qui va mieux hein, après avoir attrapé le coronavirus. Et c'est vous, Sybille, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Alors, racontez-nous, Sybille, à partir de quels symptômes vous êtes allée consulter et qu'on vous a donc diagnostiqué cette maladie, un Covid-19. Les premiers signes, ça remonte à quand ?
Alors moi, les premiers signes remontent à fin février, vers le 24 février. J'étais allée travailler dans l'Est, donc probablement... J'ai attrapé le coronavirus à ce moment-là parce que c'était un foyer d'épidémie et mes premiers symptômes, ils étaient assez proches de ceux d'une grippe en fait. Enfin, j'ai commencé par avoir les poumons en feu, la gorge en feu et une toux sèche et ensuite comme une grippe, de la fièvre quelques jours, des maux de tête, des douleurs, dont un peu des courbatures dans le corps, pas que les jambes.
Et à ce moment-là, Sybille, excusez-moi, vous pensez à la grippe ou au coronavirus ?
Je pense plutôt à la grippe. Ça me paraissait dingue que moi, je puisse être touchée par le coronavirus alors qu'on parlait pas forcément de diffusion de la maladie en France. J'étais tellement fatiguée que vraiment, je me dis, il faut que je vois un médecin là, qui m'aide pour mon inflammation et ma fatigue. En fait, je suis retournée voir un deuxième médecin, mais parce que mes symptômes persistaient, notamment la toux. La médecin a fini par me dire, si ça passe pas au bout d'une semaine, allez faire une radio des poumons. Et en fait, là, le confinement avait commencé. Et donc, plutôt que de me faire une radio, on m'a fait un scanner. C'est une façon de dépister le Covid. Et donc, c'est là où on a vu que en fait, j'avais tout simplement le Covid.
Est-ce qu'il y a eu des cas dans votre entourage ?
Je pense que oui. On ne peut pas le savoir à 100%, mais ma fille et mon conjoint ont été malades dans la foulée. Ils ont eu des symptômes assez différents de moi. Malheureusement, en fait, j'ai contaminé plein de gens sans le savoir, je pense.
En tout cas, dans votre entourage, personne n'est allé à l'hôpital. Aujourd'hui, vous vous sentez comment ?
Je me sens bien. La fatigue a été longue à passer. Mes poumons ont mis un peu de temps à aller mieux, mais en fait, non, tout va très bien. C'est un virus qui n'est pas connu, donc c'est toujours inquiétant. Est-ce que je pourrais être réinfectée ? Ça fait débat. Forcément, j'ai une anxiété aussi en ce moment. Mais en fait, non, je vais très bien et mon entourage aussi.
Et si quelqu'un a des symptômes, vous lui dites quoi ? Écoutez-vous, faites attention, mais pas de panique ?
Oui, pas de panique. Bon, même si on n'a pas de recul sur cette maladie, je pense qu'il ne faut pas paniquer. Il faut s'écouter, il faut aller voir son médecin. Il faut oser aussi rappeler, demander un suivi si ce n'est pas le cas. C'est important, ça rassure.
Donc le message à faire passer qui est très important, c'est que c'est une maladie qui peut être grave, mais c'est une maladie comme les autres. Et en tout cas, il ne faut pas avoir honte de le dire quand on l'a pour protéger ses proches, pour éviter la transmission. On vous remercie beaucoup, hein, Sybille. Merci pour ce témoignage. Et bonne convalescence. De toute façon, vous êtes à la maison, donc reposez-vous bien.
Merci, je vais faire ça.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Témoignage de Sybille, professeur Ryerson, on l'a entendu, la toux comme premier symptôme. Tout à l'heure, vous parliez des maladies associées qui peuvent augmenter le risque de sévérité. Cette question importante, hein, on nous la pose forcément, les auditeurs la posent. Est-ce que le tabac, c'est quelque chose qui peut pousser justement la maladie à s'aggraver ?
Alors, effectivement, dans le témoignage de votre auditrice, hein, qui était vraiment tout à fait parlant, elle a bien dit que ce qui était aussi important, c'était le suivi. Et je pense que pour nos auditeurs, ce qui est important, c'est de ne pas hésiter à reconsulter si on sent qu'on ne va pas mieux. Hein, voilà, il n'y a pas de honte à ça. Il y a des téléconsultations, donc il faut réinterroger les professionnels de santé
Parce que pas mal de patients témoignent un peu d'un yo-yo des symptômes. Hein. À un moment donné, ils vont mieux, puis d'un coup, ils vont avoir une grosse fatigue.
Exactement. Et on sait qu'il peut y avoir une aggravation au septième jour. Donc, c'est important, même s'il y a une grosse fatigue, de reconsulter en disant, ben voilà, je vous avais appelé il y a 2-3 jours, vous m'aviez dit de patienter, etc. Mais j'ai ce nouveau symptôme, qu'en pensez-vous? Voilà, je pense que ça, c'est important. Alors, pour revenir
sur le
à
tabac,
votre...
voilà.
Initial sur le tabac, les études effectivement montrent que le fait de fumer régulièrement est un facteur de risque de présenter une forme plus sévère. Voilà, donc c'est important que les fumeurs le sachent et peut-être saisissent l'occasion aussi pour arrêter de fumer. Hein, c'est important dans le contexte dans lequel on est. Donc il y a le tabac et puis il y a également une autre maladie respiratoire qui est en rapport avec le tabac que l'on appelle la BPCO. La bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est également un facteur de risque d'évolution défavorable. Donc il faut le savoir.
Et être vigilant par rapport à ça. Justement, risque aggravé en cas d'atteinte pulmonaire. Cela nous amène à la question d'un auditeur qui est en ligne du Niger.
Bonjour Priorité Santé, bonjour Caroline, bonjour RFI. Je suis monsieur Messin, je vous appelle depuis Niamey. Et je suis asthmatique et j'ai commencé à faire crise d'asthme depuis mon âge de 20 ans. J'ai fait beaucoup de traitements d'allergie sans succès. Je prends Asthmanol. Et les docteurs m'ont conseillé de ne pas prendre Ventoline, donc je n'ai jamais touché à Ventoline. Et je voulais savoir, à cette période de COVID-19, si je suis une personne à risque pour cette maladie et cette épidémie qui touche le monde entier. Et je voulais aussi savoir si j'ai éventuellement attrapé coronavirus ou COVID-19. Est-ce que je suis une personne qui va développer des complications?
Alors, deux questions de Messant, professeur Chantal Raherisson, on vous retrouve. Il a besoin d'être rassuré. Est-ce qu'avoir de l'asthme, ça peut faciliter la transmission? Et deuxième question, est-ce qu'il y a davantage de risques de développer des formes graves de coronavirus?
Alors aujourd'hui, dans ce que l'on sait, on n'a pas vu de signalement d'excès de risque pour les patients asthmatiques dans les études et en particulier les études chinoises. Mais ce que l'on s'est dit, c'est que comme l'asthme est quand même une maladie des bronches, on considère que ça fait partie d'un terrain de fragilité. Mais ce qui est important pour les patients quand on est asthmatique, c'est de poursuivre son traitement habituel. Hein, donc de ne pas changer son traitement, de garder son traitement de fond. Ici, on a une corticothérapie inhalée, un anti-inflammatoire pour les bronches. On ne risque rien à continuer son traitement habituel, de la même façon qu'on ne risque rien à prendre de la ventoline s'il y a besoin, si on fait une crise ou si on est gêné pour respirer.
Même si ce n'est pas le même médicament, parce qu'on avait un auditeur qui justement demandait si la ventoline, ça ressemblait à l'oxygène qui est donné à l'hôpital. On le dit, ça n'a rien à voir.
Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais il n'y a pas de raison de laisser les patients sans traitement. Et s'il y a une crise d'asthme sévère qui nécessite de la cortisone, là aussi, il n'y a pas de risque à prendre de la cortisone pour améliorer sa respiration.
Hein? Une autre question d'un auditeur, si vous voulez bien, professeur Raherisson. Il est atteint de tuberculose pulmonaire et il se demande s'il est davantage fragilisé, vulnérable.
Alors, en ce qui concerne la tuberculose pulmonaire, aujourd'hui, on ne sait pas.
On a peu de recul, puisque j'imagine qu'il y a eu peu de comorbidité.
Tout à fait. Et puis surtout, alors là, ça va dépendre effectivement de ce qui va se passer. Je pense que ce qui va se passer dans les pays francophones, notamment en Afrique, là où il y a une incidence de la tuberculose qui est plus importante, c'est là où effectivement on va observer ce qui se passe. Mais pour l'instant, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas paniquer. Les patients qui ont une maladie respiratoire et qui ont une tuberculose avérée, il faut qu'ils puissent consulter s'il y a une modification des symptômes. Tout ce qui est inhabituel doit conduire le patient à interroger son médecin en disant « voilà, je suis suivi pour une tuberculose, je prends un traitement en cours, alors que ça allait bien, je suis moins bien, que faut-il faire ?» Voilà.
Dernier message avant de nous quitter, professeur Chantal Raherisson, pour une nouvelle fois parler prévention, limiter la transmission. Pour vous, c'est quoi le message essentiel aujourd'hui ?
Le message essentiel aujourd'hui, c'est vraiment, dans la mesure du possible, de respecter le confinement. Je sais que, en fonction des endroits où on habite, du nombre de personnes dans la famille, ce sont des choses qui ne sont pas toujours faciles d'un point de vue culturel.
Bien évidemment, d'autant plus qu'il y a certains pays où le confinement n'a même pas été décrété, donc les situations sont très variables.
Voilà, mais ça, on sait que ça fonctionne. Hein. On a vraiment l'exemple, notamment avec la Chine et avec certains pays européens, on commence quand même à avoir des résultats, même s'ils sont timides. Donc, le confinement, le respect des mesures barrières, qui sont des mesures qu'on n'a pas inventées, hein, qui datent du temps de la tuberculose et bien avant, d'autres épidémies virales, mais qui fonctionnent. Donc, on est chacun acteur, finalement, et responsable des autres. Se laver les mains régulièrement. On n'a pas besoin de gel hydroalcoolique. De l'eau et du savon, ça suffit. Et puis, il y a aussi le port de masque. Alors, pour l'instant, il y a une discussion peut-être un peu polémique sur les masques pour tout le monde. Mmh. Mais je pense que dans le contexte où on n'a pas de masque pour tout le monde, il faut les privilégier pour les soignants, bien évidemment. Il y a les masques aussi barrières, faits à base de tissu, qui peuvent, à mon sens, être efficaces, au moins pour empêcher les contaminations. Voilà.
Merci beaucoup, professeur Chantal Raherisson. Je rappelle que vous êtes pneumologue dans le service des maladies respiratoires pôle cardio-thoracique du CHU de Bordeaux. Et on aura très certainement l'occasion de vous redonner la parole quand sera venu le temps d'aborder les conséquences pour la santé des poumons, les séquelles, les lésions et bien sûr la rééducation.
RFI à Paris, 89 FM.
Et avant de parler de la réanimation, prévention toujours dans Priorité Santé avec le concours de la rédaction en mandinquant.
Wasa kana somoro tanga coronavirus ma ankan ka tabulu do bunya ankan tike koni safne yi wati be katike dinyoma ani gere nyokona ujo na betiso anga nongombri anuna ndala walma anga tiso fini la flita dola ambe kanjija ko fere o matrafa.
Faire passer le message Priorité Santé en confinement, studio, à la maison et bien sûr à RFI pour parler prévention, prise en charge, on l'a dit, hein, situation sanitaire inédite en France, situation médicale, situation sociale, crise profonde avec, c'est pas une expression toute faite pour faire, comme on dit, pour bien faire, pour bien dire, mais vraiment les soignants en première ligne et les services de réanimation sollicités à l'extrême, extrême tension dans ces services. On vous retrouve, docteur Martin Dresse, bonjour.
Bonjour.
Médecin réanimateur au sein du service de pneumologie médecine intensive réa à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Avec nous également Nicolas Ostelet, bonjour.
Bonjour.
Infirmier en médecine intensive réanimation au sein de ce même hôpital de la Pitié. Merci bien sûr à tous les deux de nous accorder de votre temps. On vient d'aborder avec la pneumologue, le professeur Raherisson, les atteintes respiratoires graves associées au Covid-19. Alors, la Pitié, le plus grand hôpital de Paris. Docteur Dresse, est-ce que vous pouvez nous décrire aujourd'hui la situation dans votre service ?
Oui, alors l'analyse de la situation telle que je peux la partager avec vous ce matin, c'est que nous maintenant depuis plusieurs semaines on a complètement restructuré notre service. Habituellement on a un service qui est composé de 15 lits de réanimation dite lourde et de 7 lits de surveillance continue où les patients sont un peu moins graves et c'est tout si j'ose dire. Et actuellement nous avons converti ces 7 lits de surveillance continue en lits de réanimation, donc ça fait 22 lits et nous avons même étendu notre responsabilité, notre surveillance de patients à un étage au-dessus puisque nous avons emprunté les locaux de nos collègues gastro-entérologues pour convertir une unité de soins intensifs en réanimation lourde également. Donc actuellement, ce qui nous concerne, c'est 32 lits de réanimation et également un secteur de post-réanimation de 12 lits où on prend en charge des patients au décours de la réanimation.
Donc, alors vous avez presque doublé votre capacité.
Absolument, ouais, c'est ça. Ouais,
et cela a été anticipé ou vous avez fait au jour le jour ? Comment ça s'est passé ?
Nous sommes à ce qu'on appelle un ESR, un établissement de santé de référence pour la prise en charge des REB, des risques émergents biologiques. Mmh. Et donc, on est en première ligne sur la prise en charge de ces problème. Et donc, à ce titre, on a été stimulé dès le départ. Et donc, on a mis en place nos procédures habituelles. Et on a eu la chance de pouvoir monter, si j'ose dire, en gamme progressivement au fur et à mesure que l'épidémie prenait de l'ampleur en France, et notamment en Île-de-France et sur Paris. Donc, en fait, non, les choses se sont faites progressivement. Ça a commencé en ce qui me concerne à la fin du mois de février avec un secteur dédié Covid de Saint-Cloud. Et puis très rapidement, on a étendu au fur et à mesure des besoins.
32 lits, ils sont tous occupés aujourd'hui en réanimation ?
Oui.
Est-ce que vous avez le sentiment que les choses sont en train de se calmer en termes quantitatifs ?
Alors, je vais vraiment être très prudent parce que c'est effectivement un message qui commence à circuler dans les médias et puis également pour certains médecins, et ça nous a aussi, ça a été le cas pour nous notamment hier, et en fait les chiffres d'hier ne sont pas bons et montrent au contraire une augmentation du solde, c'est-à-dire du nombre de malades qui rentrent moins le nombre de malades qui sortent, quel que soit le mode de sortie, qui peut être un transfert vers la province, qui peut être une sortie parce que malade va mieux, mais qui peut également être un décès. Et donc ce solde est en fait plus important sur la journée de lundi que sur le week-end. Et donc les espoirs qui ont été un petit peu communiqués sur les données du week-end sont un peu douchés. Et donc on va vraiment être très prudent et plutôt là on a une impression, même si on contrôle la situation, d'être peut-être pas encore sur finalement le maximum de ce qui risque de nous être demandé.
Pas la tête sous l'eau, mais extrême prudence. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a un bon chiffre un jour que cela donne une tendance globale.
Fait.
On l'a bien compris.
Ouais.
Qu'est-ce qui a changé dans votre métier d'infirmier en réa, Nicolas Ostelet, depuis le début de l'épidémie ? Rapprochez vous un petit peu parce que je vous entends de loin.
Très bien. Alors, depuis le début de l'épidémie, on a principalement dû réapprendre à travailler autrement. On a énormément changé notre organisation de travail. On a eu au départ, vu que c'était un petit peu nouveau, beaucoup de renforts. Donc, on était beaucoup d'infirmiers, beaucoup d'aides-soignants, beaucoup de médecins en réanimation. Donc, il a fallu apprendre à travailler tous ensemble. Et puis, en fin de compte, la situation se décantant un petit peu, ayant un petit peu plus de connaissances et de savoir sur le coronavirus, on a petit à petit lissé la prise en charge pour rendre celle-ci plus facile. On a, en fin de compte, les atteintes du Covid sont assez proches du syndrome de détresse respiratoire aiguë, donc le SDRA, qui est une pathologie que nous sommes infirmiers de Réamed habitués à prendre en charge. Et du coup, ça a été une adaptation plutôt facile à ce niveau-là. Il a juste fallu apprendre à travailler avec du nouveau matériel et voilà.
On entend parler d'intubation, de coma artificiel pour ces syndromes de détresse respiratoire aiguë. C'est systématique ?
Alors, généralement, les patients arrivant en réanimation sont très généralement dans un état respiratoire assez précaire. On dit qu'ils sont en détresse respiratoire. Mmh. Et donc, nous sommes assez rapidement poussés à devoir intuber ces malades. Donc, les endormir et leur mettre un tube dans la gorge pour les aider à respirer, oui, effectivement.
On entend justement des renforts dans ces services de réanimation. Quand on parle d'un lit de réanimation, il y a eu une formule qu'on a entendue, c'est un lit qui est armé. Ça veut dire qu'il a tout, non seulement bien sûr l'équipement technique, mais aussi les bras, les ressources humaines pour prendre en charge un patient en réanimation. Ça veut dire combien de patients aujourd'hui, combien de soignants pour un patient Covid-19 ?
Alors, au jour d'aujourd'hui, pour un patient Covid-19, un infirmier aura 2 patients et un aide-soignant en aura 3. Ce qui permet de pouvoir faire un vrai binôme infirmier-aide-soignant, sachant que nous sommes aussi aidés par du coup nos réanimateurs et nos internes qui n'hésitent pas à venir nous aider quand nous sommes en difficulté.
Et est-ce qu'il a fallu former des soignants arrivés en renfort en urgence ?
Il a fallu, former des nouveaux soignants. Donc nous avons eu beaucoup d'étudiants infirmiers anesthésistes qui sont arrivés. On a eu des infirmiers anesthésistes qui étaient en poste déjà, qui sont venus nous aider, mais comme vous l'a dit Dr Dress, nous avons dû ouvrir 10 nouveaux lits sur le secteur d'unité des patho-gastro. Et du coup, il a fallu aller former le personnel là-bas qui n'était pas habitué à prendre en charge ce type de pathologie.
Docteur Martin Dress, comment est-ce qu'on fait quand on prend en charge ce type de nouvelle maladie ? Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous êtes référent pour ces pathologies émergentes. Malgré tout, en termes de traitement, quand on doit choisir des médicaments et qu'on avance un petit peu à tâtons, comment est-ce qu'on fait ?
Ben, c'est une très bonne question et c'est vrai que, en tout cas, nous, on a été vraiment presque paralysés au tout début, hein, quand on a vu arriver ces malades jeunes, grave en grand nombre avec une maladie qu'on a cru connaître, parce que c'est vrai que Nicolas a dit tout à l'heure qu'on avait apprivoisé un peu cette maladie, mais au début, il faut bien comprendre que même si ça ressemblait beaucoup à une atteinte respiratoire qu'on a l'habitude de voir, en réalité, il y a quand même quelques différences physiopathologiques qui font que la prise en charge est un peu différente. Et pour nous, ça a été, pendant une bonne dizaine de jours, beaucoup d'incompréhension, et on a vraiment eu du mal à prendre le rythme et à comprendre ce qui se passait. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu un effort important pour nous de se poser, d'essayer de comprendre ce qui se passait, de faire aussi le point avec ce qui était communiqué par nos collègues de Chine, en Italie également et en Espagne, tout le monde rapportant son expérience, ses propres observations. Et donc, il fallait faire un tri dans tout ça, et pas forcément prendre pour argent comptant la moindre observation, même si elle était peut-être très intéressante, et la confronter aussi à nos propres données sur le terrain. Donc ça a été une période assez compliquée pour nous. On a été très perplexes, très paralysés par ce qui se passait. Et puis finalement, après, oui, je dirais une dizaine de jours, on a réussi à reprendre notre rythme de fonctionnement et à mieux appréhender la maladie, et puis à mettre en place nos procédures habituelles, notre fonctionnement habituel pour essayer d'apporter la prise en charge optimale.
Et du côté de la tension dans ces médicaments, il y a des alertes disant qu'on pourrait manquer, par exemple, d'intrants de produits nécessaires en réanimation, voire même de certains antibactériens, des antibiotiques. Vous avez ce genre de tension? J'imagine que non, à la Pitié-Salpêtrière en tant qu'hôpital de référence.
Alors, pour être vraiment tout à fait honnête, on n'a pas eu de pénurie de cette sorte sur notre service dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Par contre, on a eu des risques de pénurie et des moments de tension où il restait vraiment plus beaucoup de produits, avec effectivement quelques jours où on a vraiment été très sensibilisé là-dessus. On a recherché un petit peu la dose minimale efficace pour chaque patient. C'était un peu, pour faire une comparaison, c'est un peu comme les fins de mois difficiles où on sait qu'il va falloir faire attention.
On fait des économies.
Beaucoup, et qui peut-être que les libertés qu'on pouvait prendre d'habitude à ne pas compter forcément les doses ou à être moins scrupuleux, là, on a vraiment fait attention. Voilà, donc on n'a pas connu de pénurie au sens vraiment où il n'y avait pas de médicaments, mais on a eu des heures et quelques jours un peu difficiles où on a risqué la pénurie.
On a fortement rationalisé, on a bien compris, Nicolas Oustelet. Quand on entend dire que les patients Covid-19 restent longtemps au service de réanimation, qu'est-ce que ça veut dire, rester longtemps?
Rester longtemps, c'est, on peut parler d'une hospitalisation qui peut durer plusieurs semaines, donc entre 2 et 3 semaines pour l'instant, pour les premiers retours qu'on a. À savoir qu'après l'hospitalisation en réanimation, il reste tout le chemin n'est pas terminé, il faut encore aller dans un service soit de salle, soit en rééducation. Donc c'est vrai que c'est des hospitalisations qui peuvent être plutôt longues.
Est-ce que vous pouvez nous décrire les soins? Quelqu'un qui arrive chez vous, on imagine cette personne plongée dans un coma artificiel, intubé. Vous, en tant que soignant, avec aussi bien sûr les paramédicaux, les aides-soignants sont là aussi pour vous aider. Qu'est-ce qu'il faut faire comme geste auprès de ces patients?
Les gestes sont plutôt multiples. Alors déjà, lorsque le patient arrive et qu'il est en détresse respiratoire, donc on assiste le médecin pour la période de ce qu'on appelle l'intubation, donc plonger le patient dans le coma, puis lui mettre le tube dans la bouche, dans la gorge pour l'aider à respirer. Mm-hmm. Par la suite, le rôle infirmier est assez diversifié. On a un gros rôle de surveillance de ce patient. Donc il faut mettre en place tous les médicaments, il faut les surveiller, il faut alerter les médecins lorsque certains paramètres se dégradent. Il y a un rôle de prise en charge du corps. Donc on fait des soins de ce qu'on appelle de confort, donc les toilettes, on réinstalle les patients assez régulièrement pour éviter des escarres ou autres soins.
Les lésions de la peau.
Les lésions de la peau, voilà, exactement. Et il y a aussi le soin lorsque certaines familles arrivent, donc la réassurance auprès de la famille, discuter un petit peu avec eux, faire le point avec la famille et les médecins sur la situation actuellement. Et puis, un rôle infirmier assez dense.
Assez dense, justement, docteur Martin Dresse, on évoquait la famille. On sait que les visites sont exceptionnelles, vraiment interdites sauf exception. Il y a bien évidemment des cas, on peut imaginer lesquels, lorsque la vie du patient est en danger ou la famille va être autorisée à rendre visite, à voir ce membre cher à leur cœur. Comment est-ce que ça a été décidé, la procédure du lien, du maintien du lien dans ces moments particulièrement compliqués?
Alors, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Les consignes sont vraiment de restreindre au maximum les visites. Et pour, il faut quand même bien comprendre que c'est un renversement de la table, hein, cette stratégie d'interdire les visites, parce que les réanimations, à l'heure d'aujourd'hui, quasiment toutes dans leur ensemble, et notre réanimation a été une des premières à ouvrir, au contraire, les réanimations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux familles. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est vraiment un virage à 180 degrés. Et d'habitude, dans notre service, les familles viennent quand elles veulent. Mmh. Elles peuvent même dormir hein, la nuit dans la chambre de leurs proches. Et pour nous, ça a été un changement de paradigme. C'est-à-dire que vraiment, on n'a plus de famille dans la salle d'attente, dans la salle d'entretien et dans le service. Donc ça, c'est déjà une première chose qui nous a beaucoup marqué. Même si évidemment, au début, on a été très la tête dans le guidon et très concentré sur la prise en charge des malades, mais très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Il y avait
et
un
ça
manque.
Nous a tous interpellés. Ah oui, il y avait vraiment un manque. On a une psychologue qui travaillait avec nous, qui nous a également qui a participé à cette réflexion avec nous. Et donc, en fait, assez rapidement, nous, on a un peu, si vous voulez, tordu cette directive et on a fait en sorte que les familles puissent venir, mais sur une rotation, de façon à ce que ça ne soit pas risqué pour elles et pour les soignants, puisqu'évidemment, on ne veut pas qu'il y ait deux familles dans la salle d'attente en même temps, sinon on rompe la
distanciation.
Et donc, en fait, on fait une rotation des familles. Elles viennent donc pas que quand ça va très très mal, elles viennent aussi sur un rythme d'une à deux fois par semaine pour être proches de leurs proches et à entendre des informations autrement que par téléphone. Même si je dois quand même le souligner, elles ont fait preuve de beaucoup beaucoup de compréhension au téléphone et là-dessus on s'y attendait pas forcément. Mais toutes nos familles, en tout cas dans le service, ont très bien compris les enjeux et n'ont jamais insisté pour justement venir malgré tout. Et si j'ai la possibilité de rajouter quelque chose aussi, c'est qu'on a développé en partenariat avec l'Institut des systèmes intelligents et de la robotique la mise en place d'un robot qui nous permet de mettre en place une communication par visioconférence entre la famille et le proche qui est dans la chambre. Donc le proche, malheureusement, en tout cas dans notre service, sont très souvent très endormis et dans le coma, donc ils ne peuvent pas interagir ou un petit peu. Mais pour la famille, c'est une possibilité d'être
visualiser.
Téléprésence, si vous voulez.
On comprend bien, en tout cas avec justement ces très longues hospitalisations dont on parlait tout à l'heure, 3 semaines voire plus après en service de suite. On parlait justement des visites restreintes, on imagine, hein, en service de maladies infectieuses, ce qui est devenu maladie infectieuse alors que vous étiez une réa, prendre soin des familles, prendre soin des soignants. Est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment, docteur Martin Dress, Nicolas Ostelet, de soigner en sécurité? D'abord vous, monsieur docteur Dress.
Alors oui. Moi j'ai l'impression vraiment de travailler en sécurité et c'est vrai que depuis le confinement encore plus parce que il pouvait y avoir ce risque-là d'être surtout infecté en dehors de l'hôpital. Mm-hmm. À l'intérieur de l'hôpital, comme je le disais au début, on est vraiment un service en première ligne sur ces types de prise en charge et donc on a des procédures qui sont déjà écrites, qui ont déjà été testées avec le MERS-CoV, avec le Ebola, même si on n'a jamais eu à prendre en charge de malades Ebola. En tout cas, on était préparé pour ça. Et donc, si vous voulez, on a ressorti des procédures que nous connaissons avec des infirmiers référents, des médecins référents. Et donc là-dessus, on s'est vraiment senti en grande sécurité et c'est vraiment un enjeu majeur. C'est-à-dire qu'il faut absolument que l'équipe, dans sa totalité, adhère complètement à la stratégie et à la prise en charge et que tout le monde se sente sur le même bateau et que tout le monde tire dans le même sens et que on ait l'impression d'être protégé. Je pense qu'à partir du moment où il y a une brèche dans cette protection, effectivement, alors là, ça ne va pas du tout.
Est-ce que ça complique le travail pour les transmissions, les points, les briefs? C'est très important, hein, parce que c'est vraiment une équipe qui travaille ensemble. Nicolas Ostelet, infirmier, est-ce que ça complique cette transmission des infos?
Pour parler au nom des paramédicaux, on n'a pas particulièrement l'impression que ça complique. Il a fallu qu'on réapprenne à faire autrement. On s'est réorganisé, on a changé nos habitudes de tous les jours et puis on s'est adapté. Et je pense que c'est le maître mot de la prise en charge liée au coronavirus, c'est l'adaptation. C'est vraiment ce qui nous a permis, on s'est adapté, on a appris à faire autrement et ça nous a permis de garder une qualité de soins qui est pour le moins optimum.
Adaptation et en même temps ce travail d'équipe dans ce service qui est véritablement en tension, on l'a compris. Nicolas Ostelet, il va falloir tenir, vous voyez là sur les jours, les semaines
Oui, on se voit tout à fait parce que mine de rien, on était préparé, on nous a préparé assez rapidement à devoir augmenter notre capacité. Donc, qui dit augmenter la capacité dit augmenter l'effectif. On essaie de tourner un petit peu maintenant avec le plan blanc. On est mobilisé donc pour qu'il y ait assez de présence médicale et paramédicale. Tout le monde est rappelé. Donc, c'est vrai qu'on a plus de jours de repos, mais on arrive quand même entre nous à pouvoir tourner pour que chacun puisse avoir des patients et puis que chacun puisse aussi par moment être en poste un petit peu détaché pour, même étant présent sur l'hôpital, pouvoir souffler un petit peu. Donc on arrive entre nous à s'organiser pour pouvoir tenir sur la durée.
Moi j'aime bien parce que vous avez dit juste comme ça, vous avez glissé, on n'a plus de jours de repos. Bon, mais moi ça me marque quand même quand vous dites ça. Quand vous rentrez à la maison, quand vous quittez l'hôpital, vous arrivez à décrocher ?
Oui, on arrive à décrocher. Après, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que, mine de rien, dès que on allume la radio ou qu'on allume la télévision, on reparle encore coronavirus. Mais en soi, on en parle tellement toute la journée que c'est devenu un petit peu le quotidien. Donc oui, on arrive à se détacher sur les jours où on ne vient pas travailler. Et ça nous permet quand même de pouvoir bien couper du travail.
Alors, plus d'un mois déjà dans l'action, vous faites partie tous les deux de la jeune génération. Docteur Martin Dress, par rapport à votre métier, par rapport à ce que vous avez appris, votre pratique, est-ce que vous êtes aujourd'hui, docteur, trop dans l'action pour prendre du recul ou vous vous arrêtez des fois pour vous poser, pour réfléchir à tout ce qui se passe ?
Je le fais. Ça n'a pas été possible au tout début, mais maintenant, c'est possible. C'est rendu possible par d'abord la connexion que nous avons avec, par l'intermédiaire de différents groupes de recherche nationaux et internationaux. La cinétique, finalement, d'apparition de l'épidémie n'a pas été synchrone dans l'ensemble des pays, hein, comme vous le savez. Donc, on a d'abord été un peu sensibilisé par nos collègues chinois, puis les Italiens, et puis ensuite en France. Donc oui, il y a quand même cette prise de distance qui est possible et qui nous, par l'intermédiaire de ces forums de discussion sur les réseaux sociaux, enfin réseaux sociaux privés j'entends bien sûr, et par mail sinon. Donc c'est possible. Et puis nous, on est un service universitaire. Moi j'ai également une valence universitaire, donc à ce titre, c'est notre responsabilité également d'avoir une activité de recherche et de réflexion sur ce que nous menons actuellement comme soins dans le service. Donc oui, tout à fait, j'exerce cette responsabilité avec beaucoup d'énergie également.
Recul scientifique et recul personnel ?
Recul personnel, c'est vrai que pour l'instant, on est vraiment complètement dans l'action. On est pour tous, toutes et tous, quand on rentre à la maison, comme le disait Nicolas précédemment, on reste quand même dans un environnement Covid, ne serait-ce que parce que y a le confinement. Alors quand on sort, il y a un contraste assez saisissant entre ce qui se passe dans l'hôpital, qui est une ruche. Et d'ailleurs, je voudrais profiter de ça pour dire que on est très sensible à avoir les projecteurs sur notre service et sur notre activité, moi médecin et Nicolas comme infirmier, mais il y a beaucoup d'autres fonctions support à l'hôpital, les laboratoires notamment, avec les virologues qui font un travail de titan pour traiter tous ces centaines de prélèvements par jour, les radiologues, les fonctions support techniques, informatiques. Donc il y a vraiment une grande synchronie
toute une équipe qui travaille au jour le jour. On vous remercie infiniment, merci vraiment beaucoup de nous avoir accordé de votre temps, le plus précieux, docteur Martin Dress, Nicolas Ostelet, dans le service de pneumologie réanimation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et en cette période de crise sanitaire, bien sûr, nous donnons la parole aux soignants pour comprendre les modes de prise en charge. Crise qui, chacun en a bien conscience aujourd'hui, a un impact sur les gestes du quotidien, surtout lorsque l'on doit limiter les sorties, changer les habitudes. Alors il y a des changements, y compris sur nos manières, par exemple, de manger. On va en parler tout de suite avec vous, Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, Mali. Alors on reste chez soi en période de confinement, restriction des sorties. Et vous allez nous expliquer, Stéphane, pourquoi c'est particulièrement important de continuer à bien manger pendant cette période très particulière, avec bien sûr des situations très différentes en fonction des modes de vie et de l'endroit où l'on habite.
Oui, tout à fait. Alors, dans cette période de confinement, qui peut entraîner un certain nombre de frustrations, une alimentation diversifiée va permettre de garder des moments de plaisir et de partage si l'on est confiné en famille, des moments sociaux qui vont être très importants. Alors, il ne faut pas oublier que manger équilibré et diversifié, ça va permettre à notre corps de rester en bonne santé. Et ceci, c'est très important, car en période d'épidémie, ça va permettre d'aider notre corps à maintenir une réponse immunitaire optimale, qui est notre première défense face aux infections. Il est donc important, lorsqu'on va faire ses courses, de ne pas se concentrer uniquement sur les céréales, comme les pâtes, ou encore le riz ou les plats cuisinés tout prêts, qui sont disponibles dans les pays où vous allez habiter. Il est tout à fait possible de définir une liste de courses plus diversifiée qui va contenir bien sûr ces céréales qui sont très très importantes, mais aussi des fruits, des légumes et plus largement tous les aliments qui vont apporter les protéines, les acides gras essentiels, les vitamines et les minéraux eux aussi essentiels pour que notre organisme puisse lutter du mieux qu'il peut et être en pleine forme.
Alors justement, il y a une question que tout le monde se pose. Quand on est confiné, quand on reste à la maison, qu'on limite le nombre de sorties pour faire nos courses, par exemple pour aller au marché, est-ce que ça ne complique pas les choses pour acheter, pour manger des fruits, des légumes, hein, qui sont bien sûr essentiels dans l'alimentation ? Peut-être, Stéphane, que vous pouvez nous indiquer justement quels sont ces fruits, ces légumes qui se conservent le mieux ?
Alors, d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que souvent, quand on dit fruits et légumes, les gens pensent à ce que ce soit périssable très rapidement. Or, il y a des fruits et des légumes qui se conservent très bien et qui nous permettent de ne pas aller faire des achats tous les jours au marché. Alors, pour les fruits, il s'agit par exemple, quelques exemples, des ananas, des bananes, des clémentines, des mandarines, des oranges, des avocats ou encore des pommes qui peuvent se conserver pratiquement une semaine, bien sûr. Il faudra faire attention à l'achat qui soit acheté pas trop mûr pour qu'il reste le plus longtemps possible bien conservé à la maison. Pour les légumes, il faut acheter frais ceux qui se conservent au moins une semaine. Alors là aussi, quelques exemples, ça va être par exemple les aubergines, les courgettes, les oignons et les poivrons. Pour les autres légumes, ils peuvent être achetés surgelés ou en boîte. Il est mieux d'acheter si possible les carottes, les haricots verts, les petits pois surgelés et les tomates en boîte. Alors, il faut rappeler aussi qu'il est possible d'acheter des produits frais et de les congeler ensuite.
Alors, pour tous ces fruits et légumes, hein, qu'ils soient conservés ou congelés, attention Stéphane, attention à bien les laver.
Ah oui, ça c'est très très important. Il faut les laver, les essuyer et même quand on va congeler les légumes, c'est très très important de bien les avoir lavés avant. Parce qu'il faut rappeler que le froid, la congélation ne détruit pas le virus et donc il faut parfaitement les laver avant de réaliser ce processus. Autrement, on va reporter la contamination et ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est éliminer le virus pour manger sainement.
Alors, certains aliments sont très consommés, hein, Stéphane, très populaires, mais ils se conservent mal. Est-ce que vous avez des conseils précis pour ces aliments-là ?
Alors, en Afrique notamment, pour beaucoup de nos auditeurs, il y a beaucoup, beaucoup de tomates qui sont consommées en très grande quantité puisqu'elles servent à préparer quasiment toutes les sauces. Alors, pour éviter, elles se conservent très mal, donc pour éviter d'aller au marché tous les jours, il faut mieux acheter du concentré de tomates en boîte, le temps là du confinement bien sûr, après on peut revenir à nos anciennes habitudes. Mais là où il faut faire attention, c'est que ce concentré de tomates, il est très salé, donc quand une sauce est préparée avec ce concentré, on va alors devoir limiter au maximum le sel ajouté dans la sauce et changer un peu la recette habituelle pour éviter d'avoir beaucoup de sel, plus beaucoup de sel et d'avoir un plat très très salé. Alors, en plus de ces tomates-là, il faut aussi que notre panier d'achat contienne aussi du poisson, de la viande, des féculents comme le riz, des pâtes ou des pommes de terre, des légumineuses comme les haricots secs, les pois chiches ou encore le niébé, et enfin des produits laitiers. Et avec tout ça, on aura un panier quasiment idéal pour avoir une alimentation agréable et diversifiée. Et même si ce n'est pas de l'alimentation, je conseillerais aux auditrices et aux auditeurs de toujours bien veiller avant de quitter la maison à avoir à disposition une petite réserve en savon. Pas besoin de faire des stocks immenses pour toute la famille pour ne jamais en manquer.
Alors, la liste des courses, le panier à remplir, mais aussi des gestes à retenir. Et là, en période d'épidémie, est-ce que vous pouvez donner des conseils là encore très très pratiques pour faire nos courses en prenant le moins de risques possible ?
Alors là, moi j'ai retenu 4 grands conseils vraiment très très pratiques. Alors d'abord le premier, dans les pays et les villes où c'est possible, j'insiste bien si c'est possible, il faut privilégier de se faire livrer les courses à domicile. Mais maintenant dans beaucoup beaucoup de villes africaines aussi c'est tout à fait possible, il y a des gens qui se sont spécialisés là-dedans, donc il faut se renseigner, faire livrer tout ce qu'on peut pour limiter les déplacements. Le deuxième, c'est que si ce n'est pas possible, alors il faut aller au marché ou dans les magasins en dehors des périodes de grande affluence et bien sûr respecter les distances de sécurité d'au moins 1 mètre, c'est très important. Ensuite, il faut éviter de mettre des gants car le virus peut se déposer dessus au contact des produits alimentaires, des chariots, de l'argent qu'on échange et ensuite on va propager le virus qui va s'être posé sur ces gants. Par contre, il faut sortir de nouveau, on le redit comme un dit avant, avec du gel hydroalcoolique et se laver les mains régulièrement avec, pendant les courses, tout en évitant de porter ses mains au visage. Ça, c'est très important. Et c'est ici que le masque peut avoir une utilité pour renforcer les mesures barrières en évitant que l'on puisse porter ses mains vers le nez et vers la bouche. Et enfin, si c'est possible, il est mieux de sortir avec ses sacs de courses bien nettoyés pour éviter de ramener à la maison des sacs potentiellement pas désinfectés qui sont donnés sur les marchés ou dans les magasins.
Alors, une fois qu'on est rentré à la maison avec les courses, est-ce qu'il y a encore là des précautions à prendre pour ranger les aliments, ce que l'on vient d'acheter, et les préparer, ces aliments, en toute sécurité, Stéphane ?
Oui, alors ça, c'est vraiment très important. On insiste beaucoup parce qu'on a beaucoup de gens aujourd'hui qui nous disent « Je comprends pas, je suis juste allé faire quelques courses et j'ai quand même été contaminé. » Eh bien, souvent, c'est justement cette phase-là qui est cruciale. Alors, déjà, en rentrant, il ne faut pas poser les courses de partout dans la maison pour ne pas prendre le risque de contaminer plusieurs endroits. Il faut bien les poser à un endroit et puis après commencer justement le lavage et tout ce qu'il va falloir faire. Et ça commence par bien se laver les mains au savon avant et après la manipulation de chaque emballage, fruits ou légumes. On peut penser que c'est très répétitif, mais non, c'est vraiment central. Il faut absolument se laver les mains très régulièrement, ne se les lave pas trop, il faut continuer à chaque fois. Et une fois les courses regroupées à un endroit, il faut nettoyer les emballages avec un essuie-tout à usage unique, sans besoin d'ajouter de la javel. Ça, maintenant, on le sait aujourd'hui, il suffit de bien nettoyer, mais de nettoyer partout. Pour les aliments qui vont au réfrigérateur, il faut retirer au maximum les sur-emballages et les emballages, les nettoyer bien, puis ranger dans le réfrigérateur. Ne surtout pas ranger un produit qui n'a pas été nettoyé pour ne pas contaminer le réfrigérateur. Alors ça, pour les aliments frais, comme les fruits et les légumes, il faut les rincer soigneusement à l'eau claire et ensuite bien les essuyer là aussi avec un essuie-tout à usage unique. Alors là aussi, il n'est pas nécessaire d'utiliser de javel. On pourrait même s'intoxiquer en mettant du désinfectant directement en contact avec les produits alimentaires si jamais on en met trop et qu'on ne dilue pas assez cette javel. Il faut bien nettoyer toutes les surfaces qui ont été en contact avec les aliments et les emballages en utilisant de l'alcool à 70, c'est très simple. Et bien se rappeler que vinaigre blanc qui est utilisé souvent comme recette traditionnelle n'est pas efficace contre le virus, donc c'est de l'alcool à 70 degrés. Le coronavirus étant sensible à la chaleur de la cuisson, il faudra en complément de ces mesures précédentes bien cuire tous les légumes, la viande et le poisson pour accentuer toute la protection et être sûr de manger très très sainement. Et enfin, dans les pays où les personnes mangent à la main et au plat commun, ça c'est central pour énormément de pays en Afrique, il faudra éviter totalement cette pratique. À la place, il faut bien laver une assiette et des couverts pour chaque personne qui prend part au repas et servir chacun dans sa propre assiette et chacun devra manger dans son assiette pour éviter que chacun mette la main dans le plat, chacun touche les couverts de chacun et que là, on ait des risques de transmission très importants.
On ne partage plus le bol en quelque sorte.
Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Je sais que socialement, c'est très difficile, mais pour une courte période, il faut arriver à changer quelques habitudes pour protéger tout le monde parce que c'est pas que soi aussi, on protège aussi les autres et on protège l'ensemble de sa famille.
Merci beaucoup pour ces conseils pratiques essentiels, Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Et on salue tous nos auditeurs au Mali. À très bientôt, Stéphane, et portez-vous bien.
Merci.
Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, à Cetou, Ophélie, Steven, Raphaël aujourd'hui. Demain, vous allez retrouver Caroline Lachowski à ce micro. On va parler recherche et Covid-19 pour faire le point sur les pistes et les dernières découvertes.
Santé, santé avec le groupe Sounou qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Autour de la question.